C'est l'heure du journal de la rédaction avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Rachida Dati souhaite une gouvernance unique pour l'audiovisuel public, et ce, dès cette année.
Oui, la nouvelle ministre de la Culture l'a annoncé hier, précisant vouloir avancer sans aucun tabou. On s'interrogera sur ce fantasme récurrent au sein de la classe politique de recréer une structure commune qui regrouperait notamment France Télé et Radio France. Et on se demandera jusqu'à quel point une telle réforme est envisageable et à quelle échéance. Après le vote à l'Assemblée hier en faveur de la stratégie d'aide à l'Ukraine, quelle perception les Français ont-ils aujourd'hui de la menace russe? On posera la question à notre invitée, l'historienne Bénédicte Chéron. On reviendra par ailleurs sur la démission surprise ce matin du directeur de Sciences Po, Mathias Vichra, soupçonné de violence conjugale, lequel a pris son renvoi devant la justice, de quoi ouvrir une énième crise au sein de cette école des élites parisiennes. Enfin, l'actualité à l'étranger. On se rendra à Moscou après qu'on a appris hier soir l'agression de l'une des principales figures de l'opposition, et ce à quelques jours de l'élection présidentielle censée introniser de nouveau Vladimir Poutine. Depuis la fin de la redevance, non seulement la question d'un financement pérenne de l'audiovisuel public demeure encore floue, mais sa suppression aura, qui plus est, de manière au fond assez fatidique, remis une pièce dans la machine de ce véritable serpent de mer que constitue la grande réforme voulue depuis une dizaine d'années déjà par les sénateurs essentiellement de droite, la création d'une vaste holding rassemblant au sein d'une même structure et avec une gouvernance commune, France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA, c'est-à-dire ce que c'est. Les détracteurs appellent ni plus ni moins que le retour de l'ORTF. Et hier, interrogé devant la commission de la culture et de la communication du Sénat, justement, la nouvelle ministre de la culture, Rachida Dati, s'est dite prête à ressusciter ce projet, en l'occurrence une proposition de loi sénatoriale votée l'été dernier, mais qui, face aux réserves, notamment de la précédente ministre Rima Abdul-Malak, n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors pour l'heure, les contours de cette réforme ne sont pas très clairs, qu'il s'agisse de la question de son financement, des emplois ou du traitement de l'information. On ne sait pas davantage si Rachida Dati aura ou non les moyens de ses ambitions. Avant d'envisager malgré tout la faisabilité d'un tel projet, constatons déjà une première chose avec certitude cette fois-ci, c'est que pouvoir et audiovisuel ont toujours entretenu, Antoine, des liaisons sinon dangereuses, très étroites.
Oui, Radio France et France Télévisions sont deux sociétés distinctes, mais elles ont un point commun, leur seul actionnaire est l'État. Il contribue donc en grande partie à leur chiffre d'affaires. Depuis la suppression de la redevance en 2022, une fraction de la TVA est allouée à l'audiovisuel public. La publicité participe également aux ressources de ces chaînes, en particulier pour la télévision. Radio France et France Télévisions appartiennent à l'État, aux Français, pas au pouvoir politique. Mais c'est bien l'exécutif et les majorités successives qui décident des réformes de ce secteur. Et historiquement, la gauche n'a pas la même idée de l'audiovisuel public que la droite. Pour simplifier, la droite veut faire des économies quand la gauche souhaite développer ce secteur. C'est la droite, par exemple, qui a privatisé TF1 en 1987. C'est la gauche qui a créé Arte en 1992 sur l'ex-canal de la 5, chaîne privée. Ça, c'est la règle, mais il y a aussi des exceptions, ou plutôt des réformes qui peuvent sembler contre-intuitives. En 2009, Nicolas Sarkozy supprime la publicité sur France Télévisions à partir de 20h. Ça ne va pas dans le sens d'économie pour les chaînes publiques. L'opposition de gauche, qui avait elle-même, dans le passé, proposé une réforme semblable, est un instant troublée avant de trouver son explication. Le chef de l'État souhaitait faire un cadeau aux chaînes privées en aérant le marché publicitaire. Mais dans le même temps, ce même Nicolas Sarkozy met en œuvre la fusion de France 24 et RFI en 2008. La télévision et la radio qui fusionnent au sein d'une holding pour faire des économies d'échelle, cela ressemble au souhait de Rachida Dati d'une gouvernance unique dès cette année pour l'audiovisuel public.
Merci Antoine Marette. Alors effectivement, la proposition de projet de loi adoptée par le Sénat l'été dernier propose, on l'a dit, la création d'une holding, un véritable fantasme, selon l'historien des médias Patrick Evenot, joué au téléphone par Hélène Combi.
Soit on met une holding tout au-dessus, donc on va créer une structure de plus avec des conflits de pouvoir en plus entre les présidents des différentes chaînes et puis la holding supérieure. Soit on va essayer de fusionner tout ça, mais ça va demander 10, 15, 20 ans à une époque où il faudrait plutôt s'occuper de comment s'informent les Français par l'intermédiaire des plateformes, des réseaux sociaux, etc., etc. Quand on pense que pour faire une convention collective commune à la deuxième chaîne et à la troisième chaîne, il a fallu plusieurs années de négociations, parce que chaque entreprise a sa convention collective, a son statut, a son etc. etc. Je pense que c'est voué à l'échec et que Rachida Dati, même si elle est très combative, n'aura pas la force de mener jusqu'au bout ce genre de combat.
Pourquoi ce fantasme de holding, en fait ? Qu'est-ce que souhaite le pouvoir à travers ça ?
Je crois qu'il souhaite essentiellement faire des économies. On sait depuis fort longtemps que le pouvoir politique n'a pas véritablement d'influence sur les contenus télévisuels. Il y a bien longtemps que les présidents de chaîne sont plus nommés par le pouvoir politique, mais par l'ARCOM, enfin, ou le CSA avant. Alors que sous les RTF, c'était le président de la République qui décidait, un tel jeune homme, le président du conseil d'administration de l'ORTF, et puis voilà, pointe à la ligne. Et puis, il pouvait le révoquer, évidemment, trois jours plus tard, s'il en avait envie.
Voilà, l'historien des médias Patrick Evenot, donc, il répondait à Hélène Combi. Le propriétaire du groupe Canal+, Vincent Bolloré, sera lui entendu cet après-midi par une commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences télé, une intervention d'autant plus attendue que les prises de parole publiques du milliardaire sont plutôt rares. La dernière remonte à janvier 2022 devant une autre commission d'enquête, déjà celle sur la concentration des médias, et puis demain, ce sera au tour de son animateur star, mais aussi de son employé le plus controversé, Cyril Hanouna, d'être auditionné.
Sciences Po Paris, de nouveau plongé dans la tourmente.
Son directeur, soupçonné de violence conjugale, a annoncé ce matin sa démission après avoir appris son renvoi devant la justice. Alors rappelons que, suite à ces accusations, Mathias Vichra avait déjà proposé son retrait avant finalement de revenir fin janvier sous les huées des étudiants. Toujours est-il qu'en attendant donc la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante, une administration provisoire va être mise en place dans les prochains jours. Merci à Musique, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes rendu ce matin à Sciences Po, qui depuis une dizaine d'années maintenant cumule décidément déboires et scandales autour de ses dirigeants. Sans d'ailleurs que son prestige académique n'en soit pour l'heure entaché. Quelles étaient, Mercia, les réactions ce matin après cette démission ?
Claire, une étudiante de Sciences Po de 21 ans, est soulagée ce matin en apprenant la démission du directeur de l'école, Mathias Vichra, une décision qu'elle trouve normale.
Moi, ça fait longtemps que je voulais sa démission. Je trouve ça inacceptable, surtout que Sciences Po met au premier plan la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc ça me paraissait assez hypocrite de continuer à avoir un directeur qui a été accusé. Donc l'important, c'est pas la culpabilité ou non, mais juste dès lors qu'il y a accusation, pour moi, il aurait dû démissionner déjà il y a bien quelques semaines.
Le syndicat, l'Union étudiante, estime également que cette démission intervient trop tard. Mais d'autres étudiants interrogés ce matin rappellent que le directeur est présumé innocent tant qu'il n'a pas été condamné. Il s'inquiète pour la stabilité de l'école, comme l'explique Jasmine, étudiante en première année de master.
On trouve que c'est vraiment dommage, cette instabilité au niveau des présidents quand même, parce que personnellement, j'ai intégré Sciences Po en 2020, et d'ici à 2020, on a eu deux présidents différents qui ont dû quitter l'institution suite à certaines esclandres pas très sympathiques au final. Donc on a un peu secoué en fait.
Mathias Vichra avait succédé en novembre 2021 à la tête de l'école à Frédéric Mion. Ce dernier avait été contraint de démissionner pour avoir dissimulé les soupçons d'inceste visant le politologue Olivier Duhamel. L'école fait face à des polémiques autour de ses dirigeants depuis plusieurs années.
Merci, merci Anésique. Membre des forces navales françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale, il avait mis fin à sa carrière militaire au début des années 80 avant d'embrasser la politique durant près de deux décennies en tant que sénateur sous l'étiquette du RPR d'abord, puis de l'UMP ensuite. Philippe de Gaulle, le fils du général et premier président de la Ve République, s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 102 ans. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Celui qui avait hérité de son père certaines attitudes avait fait carrière dans son ombre et surtout passer la moitié de sa vie en réalité, Stéphane, à défendre et à perpétuer sa mémoire.
Oui, il avait notamment publié un livre d'entretien en deux volumes en 2003 intitulé « De Gaulle, mon père ». Philippe de Gaulle ressemblait physiquement à Charles de Gaulle et il faisait à peu près la même taille. Pourtant, il vécut toute sa vie dans l'ombre de son illustre père. Il en était conscient, ce qui donnait lieu à l'expression d'une grande humilité. Ce qui fut le cas par exemple en janvier 1991, lorsqu'il fut invité de l'émission L'Heure de Vérité sur la chaîne qui s'appelait encore Antenne 2.
Quelqu'un a dit avec quelque hauteur que mon fils Jean, député des Deux-Sèvres, et moi-même n'exprimions pas la pensée du général de Gaulle. Il a dit là une évidence, le général de Gaulle étant mort depuis 20 ans ne peut pas exprimer sa pensée, et mon fils et moi, nous n'en sommes qu'une continuité biologique.
Mais s'il est resté dans l'ombre, Philippe de Gaulle n'en a pas moins eu une carrière. Militaire d'abord, puis politique. Sa carrière militaire commence dès juin 1940. Quand il rejoint son père à Londres, il intègre alors les forces françaises libres et il participe les années suivantes à la libération de la France. C'est lui, par exemple, en 1945, à l'âge de 23 ans, qui négocie la reddition des Allemands retranchés à l'Assemblée nationale. Ensuite, il fait carrière dans la marine nationale. Il navigue sur toutes les mers du monde, participe à la guerre d'Indochine, à la guerre d'Algérie et finit par être nommé amiral en 1972 à l'âge de 59 ans. Politiquement, il est l'un des adjoints de Jacques Chirac à la mairie de Paris dans les années 80, puis il se fait élire sénateur en 1986, poste qu'il occupe jusqu'en 2004. L'hebdomadaire Le Canard Enchaîné l'avait affublé d'un surnom, Sosthène, en référence à un noble légitimiste, un défenseur de la couronne royale du début du 19e siècle, le Sosthène de La Rochefoucauld. En réalité, ce sont ses collègues militaires qui l'avaient surnommé ainsi, et c'est sous ce pseudonyme que Philippe de Gaulle avait adhéré à l'époque à tout un tas d'associations politiques qui se revendiquaient du gaullisme.
Merci Stéphane Robert, et je précise qu'un hommage national lui sera rendu la semaine prochaine aux Invalides.
Vous écoutez France Culture, il est 12h41, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Avec 372 voix pour et 99 contre, les députés ont apporté hier un large soutien à l'accord de sécurité entre Paris et Kiev, en dépit donc de l'abstention du RN et de l'opposition de LFI et des communistes, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs toutes les oppositions de dénoncer à nouveau les propos d'Emmanuel Macron sur un éventuel envoi au sol de troupes alliées. Toujours est-il que le chef de l'État s'exprimera à nouveau demain sur le sujet à la télévision dans le 20h de TF1. Alors ce débat hier aura au moins servi à une chose, révéler au grand jour l'étendue des dissensions qui traversent la scène politique sur la réponse à apporter à l'invasion russe. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Bénédicte Chéron, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Institut catholique de Paris. Bonjour madame.
Bonjour.
Je le disais, ce vote hier, bien que favorable, cache assez mal, disons, une certaine réticence à renforcer l'engagement de la France en Ukraine. Un récent sondage publié dimanche dernier démontrait d'ailleurs qu'une minorité aujourd'hui de Français interrogés continue de soutenir à la fois financièrement et militairement l'Ukraine. Est-ce que les Français se sentent physiquement menacés par ce conflit? Et si oui, ont-ils des raisons de le croire?
Alors la première chose, c'est qu'il faut toujours avoir beaucoup d'humilité quand on essaye de dessiner ce que pense une population, en l'occurrence ce que pensent les Français, ce que sentent les Français, parce qu'on a assez peu d'éléments pour se prononcer. En revanche, on peut émettre quelques hypothèses et effectivement constater que, eh bien, pour les Français, bien que cette guerre se déroule en Europe, il y a un certain nombre de menaces qu'ils peuvent percevoir parce qu'ils savent qu'elles existent, qui sont des menaces de type cyber, mais que ces menaces ne pèsent pas sur la perception de la guerre comme les menaces physiques qui peuvent exister quand on est tout proche d'un conflit ou frontalier d'un conflit ou que le conflit se déroule vraiment dans une proximité géographique très forte. Et ce qu'on réapprend probablement, c'est que nous sommes Européens, les Français sont au sein de l'Union Européenne et le savent, et en partie le sentent, mais que les opinions publiques, eh bien, sont aussi marquées par cette dimension territoriale, cette dimension géographique. Et puis aussi, il faut bien le dire, par une question historique, une question mémorielle, qui est que nous n'avons pas la même mémoire du rapport avec la Russie et l'Union soviétique que nos proches voisins d'Europe de l'Est.
Il y a quelques jours, Emmanuel Macron avait agité le spectre de l'envoi possible de troupes au sol en Ukraine. Lundi, c'est le président Volodymyr Zelensky qui assurait à la France que ses enfants n'allaient pas mourir en Ukraine. Quel imaginaire suscite tout ce vocabulaire guerrier et jusqu'à quel point participe-t-il aussi peut-être de cette peur que pourraient ressentir les Français ?
Oui, c'est intéressant parce qu'on voit bien que la médiatisation de cette guerre et cette guerre elle-même, sa nature vient réveiller des représentations collectives qu'on pensait un peu, qu'on pensait lointaines en fait, de faits qui nous semblaient très lointains. On voit en Ukraine un front fixé, on a des images de tranchées qui sont arrivées jusqu'à nous assez rapidement après le début de l'invasion. Et puis il y a ces mots de troupe au sol. La troupe, ça renvoie à un imaginaire qui est celui plutôt d'une armée assez massive et pas de quelques unités de soldats professionnels. On a vu dans le débat public, pas forcément dans la bouche des responsables politiques, mais les uns et les autres invoquaient des références historiques à l'avant Première Guerre mondiale ou à l'avant Seconde Guerre mondiale en fonction des démonstrations qu'ils voulaient faire. Et donc on voit que c'est tout cet imaginaire des deux guerres mondiales qui ressurgit en fait assez rapidement, que très rapidement un certain nombre aussi de responsables politiques ont estimé qu'ils ne voulaient pas voir partir des époux, des maris, des frères, des fils à la guerre. Et on voit que c'est l'imaginaire des deux guerres mondiales en fait qui est charrié par toutes ces invocations sémantiques. Et c'est un peu une difficulté parce que ça ne permet pas forcément de comprendre que l'histoire ne se répète jamais.
Justement, jusqu'à quel point ces analogies sont-elles pertinentes ou non?
Les analogies, elles sont toujours intéressantes pour réfléchir aux entraînements, aux enchaînements de cause à effet, aux liens de causalité dans l'histoire, à ce que produisent un certain nombre de situations. Mais en l'occurrence, cette mémoire des deux guerres mondiales, c'est une mémoire qui a tendance à écraser l'histoire du XXe siècle, à faire un peu oublier que depuis la Seconde Guerre mondiale, il s'est quand même écoulé quelques décennies pendant lesquelles s'est déroulée une guerre froide avec des épisodes de tension extrêmement forts parfois, que pendant cette guerre froide s'est aussi installée la dissuasion nucléaire, qu'elle a fonctionné pendant la guerre froide. Alors la situation n'est pas non plus équivalente à celle de la guerre froide, mais il faut bien comprendre que l'histoire n'est pas une répétition. L'histoire est un enchaînement, est une continuité. Et la difficulté quand on va chercher des souvenirs aussi écrasants que ceux des deux guerres mondiales, c'est qu'on a tendance un peu à écraser aussi le débat stratégique et à ne pas forcément permettre au grand public de saisir les enjeux réels de la guerre qui se déroule à l'est de l'Europe.
C'est bien compris. Merci Bénédicte Chéron, maîtresse de conférence, je le rappelle, en histoire contemporaine à l'Institut catholique de Paris, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Tina Young pour la préparation.
Aux États-Unis, à présent, le prochain duel entre le président démocrate et son rival républicain ne faisait déjà guère de doute. Il s'est confirmé hier soir.
Oui, en remportant chacun une nouvelle primaire, Joe Biden et Donald Trump ont franchi le seuil du nombre de délégués nécessaires pour décrocher l'investiture de leurs partis respectifs, s'offrant ainsi pour les presque 8 mois à venir l'un des plus longs face-à-face électoraux de l'histoire américaine. À quelques jours seulement de l'élection présidentielle qui, selon toute vraisemblance, devrait consacrer un nouveau triomphe à Vladimir Poutine, faute de véritables opposants, l'une des principales figures de l'opposition russe en exil en Lituanie a été violemment agressée hier soir. Son nom, Léonid Volkov, à 43 ans. L'ex-bras droit d'Alexei Navalny, mort le mois dernier, a été frappé de 15 coups de marteau devant son domicile. Aucun suspect n'a été identifié à ce stade, mais lui en est d'ores et déjà convaincu. Cette agression est typique, dit-il, du mode opératoire des hommes de main du maître du Kremlin. Les précisions depuis Moscou de notre correspondant Sylvain Tronchet.
Quelques heures avant son agression, Léonid Volkov confiait être inquiet pour sa sécurité depuis la mort d'Alexei Navalny. L'ancien directeur de la fondation anticorruption FBK, compagnon de route historique de l'opposant au Kremlin, est officiellement recherché en Russie et reste dans le viseur du pouvoir. Hier soir, il raconte qu'un homme l'a agressé à coups de marteau devant son domicile. Il a brièvement été hospitalisé avant de rentrer chez lui et d'enregistrer une vidéo, le visage tuméfié et le bras dans le plâtre.
Ils ont voulu faire de moi une escalope avec un marteau. Un homme, juste devant la maison, dans la cour, il a frappé ma jambe 15 fois. Mais l'essentiel, c'est que nous continuions à travailler et que nous n'abandonnions pas. Je ne suis pas vraiment prêt à faire des commentaires pour l'instant, si ce n'est que pour moi, il est évident qu'il s'agissait d'une salutation de Poutine, typique de la part d'un gangster de Saint-Pétersbourg.
Pour Léonid Volkov, les choses sont claires, donc. La main du Kremlin se trouve derrière son agression. C'est également ce qu'estiment les autorités lituaniennes, dont les relations avec Moscou sont notoirement mauvaises. Le Kremlin n'a pas réagi pour l'instant.
Quelques jours à peine après le rapt de plus de 250 élèves au Nigeria, des hommes armés ont à nouveau pris d'assaut un village hier avant de kidnapper des dizaines de personnes, 32 femmes et 29 hommes. Ces enlèvements de masse contre rançon constituent aujourd'hui l'un des pires fléaux à l'œuvre dans ce pays le plus peuplé d'Afrique et en proie déjà au désarroi face à l'insécurité alimentaire et au terrorisme intérieur.
Un mot et un seul, vertigineux.
Oui, hier, le patron de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a assuré que le nombre d'enfants présumés tués en seulement 4 mois de guerre à Gaza est désormais plus élevé que le nombre d'enfants morts en 4 ans dans l'ensemble des conflits à travers le monde. Toujours à la tribune de l'ONU, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a lui dénoncé l'utilisation de la faim comme arme de guerre. Quant au navire humanitaire de l'ONG espagnole Open Arms, chargé de 200 tonnes de vivres, il est toujours en route à destination de l'enclave assiégée et bombardée. On termine avec un mot au rapide du temps pour cet après-midi marqué par le retour du soleil au sud et à l'ouest. En revanche, le ciel restera encore encombré sur le nord. Brest. La vigilance orange au cru est par ailleurs maintenue pour la Gironde et la Charente-Maritime. Quant aux températures, elles seront comprises entre 13 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.